Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'ai le plaisir de recevoir Rend, CEO de Zama. Salut Rend.
Salut.
T'as un parcours assez incroyable, hein. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu as appris à coder à l'âge de 10 ans, que tu as créé un réseau social à l'âge de 14 ans, une web agency à l'âge de 15 ans, et ensuite tu as étudié le machine learning à l'âge de 18 ans, avant de commencer un doctorat à l'âge de 21 ans. On peut dire que t'as pas chômé pendant ton adolescence. Et
Ça
enfin,
va.
ouais. Et ensuite, tu as créé Snips, donc une startup d'intelligence artificielle que tu as revendue à Sonos. Tu as fait d'autres choses aussi, hein. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Zama?
Donc salut, moi je m'appelle Rand, je suis le CEO chez Zama. Donc mon background effectivement c'est machine learning et en particulier tout ce qui touche à la vie privée et à la data. Donc pendant mon doctorat par exemple, j'ai utilisé du machine learning pour de la biologie où j'analysais de l'ADN. Donc c'était assez évident que quand on fait ce genre de manipulation, qu'on peut pas se permettre que la donnée soit accessible à n'importe qui. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à me poser la question du privacy et j'ai décidé d'en faire ma carrière.
Ok.
Donc en parallèle de Zama, je suis aussi investisseur. Donc j'ai investi dans plus de 60 startups. Donc moi, mes spécialités, c'est vraiment les startups que les autres investisseurs ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils développent des trucs tellement techniques, tellement compliqués, qu'en fait, si t'as pas toi-même un background de chercheur et que t'as pas toi-même monté des startups un peu dans la deep tech, en fait, t'es complètement largué. Donc j'adore ce genre de trucs-là. Donc petite pub promotionnelle, si quelqu'un travaille un projet que personne comprend, appelez-moi.
Et d'ailleurs, oui, non, mais complètement vrai, ça veut dire que quand tu es un VC et que tu es sur une problématique très technique, enfin, tu peux vite te faire en fait mener en bateau, ouais.
Ben, c'est très compliqué, tu sais, quand un founder vient te voir et qu'il a rien d'autre qu'un morceau de code ou un papier académique, et que toi, tu es censé juger si ce truc-là, ça va être une boîte qui vaut 100 milliards dans le futur, bon, c'est un skill set qui est pas très courant, et que moi, j'ai par chance, en fait, parce que j'ai à la fois un background d'entrepreneur qui a fait ça deux fois, et parce qu'en plus de ça, j'ai été chercheur avant.
Et est-ce que c'était arrivé de. J'imagine que tu vas passer pas mal de decks, d'avoir vu passer des decks, tu dis non, mais là, ça mène un peu nulle part, et ces projets ont quand même réussi à lever parce que peut-être qu'ils ont réussi un peu à
Tout
ruser
le
des
temps, bien
investisseurs.
sûr,
Ouais.
tout le temps. Et d'ailleurs, je veux dire un truc. En fait, ça m'arrive parfois aussi de ne pas investir dans des boîtes dont je sais que ça sera des bons cartons d'un point de vue business, mais juste pour le fait, parce que ça ne m'intéresse pas. Tu sais, en fait, moi, j'investis pas que pour faire du fric. J'investis aussi parce que j'aime m'intéresser à des sujets, tu vois, compliqués. C'est des choses qui me passionnent, en fait. Et donc, en général, les startups où j'investis, c'est des boîtes que j'aurais pu moi-même monter ou que je trouve super intéressantes ou j'ai juste envie, en fait, de faire partie un peu d'une aventure. Donc évidemment, le but c'est quand même de faire de l'argent, mais ce n'est pas le seul objectif. Sinon, il y a d'autres métiers que tu peux faire, hein, si ton but c'est que faire du pognon. Mais être investisseur dans la deep tech, il faut quand même avoir envie et de s'intéresser à la science.
Parce que j'imagine que tu investis dans ces projets, mais qu'après, il y a quand même un accompagnement.
Oui, dans le sens que je suis entrepreneur, on se parle entre entrepreneurs. Tu sais, moi je suis pas VC, hein. Donc quand je parle à un entrepreneur et que j'investis dans sa boîte, on s'appelle, c'est hyper chill, c'est hyper casual. Donc quand ils ont besoin d'un conseil, quand ils ont besoin de moi et que je peux les aider, avec grand plaisir, je les aide.
Ok. Et bah revenons sur Zama. Donc Zama, hein, c'est. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est? Vous avez levé des dizaines de millions d'euros, on viendra là-dessus. Mais ouais, déjà pour commencer, est-ce que tu peux présenter le projet?
Donc l'idée de Zama, c'est qu'on travaille sur une techno qui s'appelle le chiffrement homomorphe, le homomorphic encryption en anglais, qu'on abrévie en général FHE, pour fully homomorphic encryption. L'idée du FHE, c'est que tu peux faire des calculs à l'aveugle sans déchiffrer les données. Donc imagine par exemple, je suis un utilisateur et je veux utiliser ChatGPT. Bah aujourd'hui, en fait, j'envoie une requête à ChatGPT. Donc OpenAI, qui fournit le service, voit toute la data que j'envoie. Ils font une analyse et me renvoient la réponse. Avec le chiffrement homomorphe, je pourrais envoyer une requête chiffrée à OpenAI. Donc OpenAI n'a aucune idée de ce que je viens de demander à ChatGPT, mais ils peuvent quand même faire tourner leurs algorithmes dessus, produire une réponse qui elle-même est chiffrée, que moi je peux déchiffrer. Donc pour moi en tant que user, rien ne change. J'envoie de la data, je reçois une réponse. Mais maintenant la donnée elle est chiffrée pendant que je l'envoie et pendant le calcul, ce qui veut dire qu'elle est chiffrée de bout en bout. Même pas le prestataire de service n'est capable de voir la donnée qu'il a utilisée pour vendre son service.
Alors un autre exemple aussi qui était sympa, parce que j'avais rencontré justement Jason qui m'avait un peu pitché Zama, c'était l'exemple. Alors c'est assez courant, notamment aux États-Unis, où en fait on reçoit un tube chez soi, on met un peu de salive dedans, on renvoie le tube via par courrier postal, ensuite ça fait une analyse de l'ADN pour savoir un peu quel est notre profil, enfin d'où on vient concrètement. D'où vient notre descendance.
Exactement, c'est un super bon exemple. Il n'y a pas longtemps, 23andMe, qui est une énorme boîte de génétique, hein, qui fait de l'analyse de génétique comme ça, s'est fait pirater. Donc l'ADN de plein de gens s'est retrouvé dans la nature.
Bah, dans le
Alors,
mien, du coup.
dont le ah bah voilà, ok, ouais, dont le tien aussi, tu vois. Donc en fait, avec notre techno, ça ne pourrait pas arriver. Parce qu'en fait, 23andMe n'aurait jamais eu ton ADN, ils auraient eu qu'une version chiffrée de ton ADN. Ils auraient quand même pu l'analyser, te donner tout un tas d'insights en fait sur ta génétique. Mais si quelqu'un était venu, avait piraté leur serveur, ce qu'ils auraient eu, c'est un tas de données chiffrées, de l'ADN chiffré. Et comme chaque utilisateur a sa propre clé, bah en fait, finalement, ils pourraient rien faire avec ça. Donc, tu n'aurais pas de problème de vol de données, tu n'aurais pas de problème de surveillance, tu n'aurais pas de problème de privacy. En fait, finalement, tu n'aurais plus jamais besoin de faire confiance avec ta data à celui qui t'offre un service.
Et d'ailleurs, 23andMe, vous les avez contactés suite à ce hack pour leur un peu expliquer comment vous pourrez résoudre ce problème à l'avenir si ça se si ça se produit encore.
On parle à des boîtes dans le genre.
Ok, ça marche. Comment t'as eu l'idée de créer Zama
Alors, en fait, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, je me suis toujours intéressé au privacy. La première fois que je me suis posé la question, en fait, c'est quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'avais développé un réseau social avec un copain. Et il était assez populaire. On avait quelques dizaines de milliers de personnes dessus, ce qui, dans les années 90, était énorme, hein, quand il pense. Hein, c'était vraiment énorme. Et un jour, à l'école, je me rappelle, j'avais 14 ans, tu vois, un truc comme ça. T'avais un mec qui était beaucoup plus grand que moi, je sais pas, 2 ans de plus que moi, qui, disons, qui m'embêtait, tu vois, qui me bouliait, je sais pas comment on dit en français, à l'école. Moi, j'étais petit, tu vois, j'avais 14 ans, le mec avait 16 ans, tu sais, à cet âge-là, ça fait une énorme différence, quoi. Donc, je pouvais pas vraiment défendre physiquement, tu vois, je pouvais pas lui casser la gueule, quoi. Je me suis dit, mais attends, peut-être que le mec est utilisateur de mon réseau social. Donc, je suis allé dans la base de données de mon réseau social, j'ai commencé à regarder les messages privés. Et j'ai vu que le mec, en fait, était un utilisateur. Et j'ai commencé à lire ses messages. La prochaine fois qu'il est venu me voir, j'ai commencé à lui balancer tout ce que je savais sur lui et son petit crush secret sur telle ou telle copine, en fait, à l'école. Il ne m'a plus jamais emmerdé. Donc, tu vois, ce jour-là, je me suis dit, quand même, il y a une justice sur la Terre. Le mec est physiquement plus fort que moi. J'ai réussi à lui faire du chantage pour qu'il me laisse tranquille. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce que j'avais fait, ça n'aurait jamais dû arriver. Juste parce que je suis l'opérateur du service, ne devrait pas me donner le droit d'accéder aux données de mes utilisateurs. Tu vois? Et dans les années 90, personne ne se posait la question de la vie privée. Il n'y avait pas de GDPR, il n'y avait rien de tout ça. Tu vois? Donc en fait, c'était pas très grave. Enfin, c'était très grave, mais c'était pas grave comme aujourd'hui, ça le serait. Mais ça m'a toujours trotté en tête. Et je me suis toujours dit, ça serait quand même bien que les choses sur Internet soient chiffrées en permanence, qu'on puisse jamais accéder aux données. Et j'ai découvert en fait le chiffrement homomorphe. Lors de ma dernière startup Snips, parce qu'on s'intéressait déjà au sujet de vie privée d'intelligence artificielle, et c'est là où j'ai rencontré mon cofondateur de Zama, Pascal Payet, qui est un des inventeurs du chiffrement homomorphe. Et quand j'ai découvert cette techno, je me suis dit, non mais attends, t'es en train de m'expliquer qu'il existe une manière d'écrire du code pour que je puisse offrir exactement le même service sans jamais voir les données de mes utilisateurs. Mais c'était évident que ce truc-là, ça allait devenir gigantesque. Mais sauf qu'en 2015, ça marchait pas. Tu vois, 2015-2016, ça marchait pas du tout. Il a fallu quelques années, il a fallu la création de Zama pour que pour la première fois, le chiffrement homomorphe puisse être utilisé dans la blockchain, dans l'intelligence artificielle et dans tout un tas d'autres applications.
Ok, parce que, ouais, pour resituer, vous avez créé Zama en 2019, c'est ça?
Alors, 2020, j'ai vendu ma
2020.
boîte en fait fin 2019, Snips,
Ok.
et du coup, on a monté Zama quelques mois après.
Ok. Et c'est vrai que pour venir à ce que tu disais hein, dans les années 2015, c'est vrai que ces sujets de privacy, c'était pas du tout des sujets d'actualité comme ça peut être le
Bah,
cas maintenant.
ça l'était pour moi. Tu sais, moi, je me rappelle, hein, c'est la première fois que j'ai parlé chiffrement homomorphe. C'était à une conférence en genre 2016, un truc comme ça. Tu sais, les gens me regardent un peu avec des grands yeux. T'avais trois cryptographes dans la salle qui étaient là, genre, ouais, ça, c'est le futur et tout. En fait, ceux qui savent, savent. Mais c'était pas, en fait, aussi démocratisé. Parce que t'avais pas encore eu le scandale de Cambridge Analytica. T'avais pas encore eu, enfin, t'as vu la révélation Snowden. Mais t'avais pas eu, en fait, les conséquences de tout ça qui s'était, en fait, véritablement développé. Aujourd'hui, pour être honnête avec toi, les gens se posent un petit peu plus la question de la vie privée, mais en vrai, ils s'en foutent encore. Et donc, moi, mon but, si tu veux, c'est pas que les gens se soucient de leur vie privée. C'est qu'ils n'aient jamais besoin d'y penser, non pas parce qu'ils ont laissé tomber, mais parce que c'est garanti par tous les produits qu'on utilise grâce à des technologies comme le chiffrement homomorphe. Ça devrait pas être une question, ta vie privée, pour toi. Ça devrait pas être un truc auquel tu penses, sur lequel tu dois agir. Ça devrait être quelque chose, en fait, qu'Internet doit offrir par défaut.
Complètement. Et donc toi, ta vision, c'est que finalement, dans un futur plus ou moins proche, toutes les apps soient basées en fait sur ce protocole hein, de chiffrement homomorphe pour
C'est
sécuriser la
ça.
data. Ok.
Exactement. De la même façon, tu vois, qu'on est passé de HTTP à HTTPS, où maintenant les données que tu envoies sur Internet sont chiffrées, bah, nous on pense qu'il y aura un HTTPZ, où les données seront chiffrées même pendant le calcul, donc de bout en bout. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu auras ton petit cadenas dans ton browser, en fait, tu n'en sais rien, mais tu ne poseras même pas la question en réalité. Ça sera par défaut.
Ouais, j'imagine un futur très lointain où ce sera limite un protocole imposé par les
Écoute.
politiques pour chaque implication.
Oui, enfin, si tu as envie que ce soit à l'échelle d'Internet, il va clairement y falloir un petit peu de temps, parce que, enfin, comme tu peux
Yes.
imaginer, tu n'upgrades pas Internet du jour au
Non.
lendemain comme ça.
Ouais.
Mais on va y arriver parce qu'en fait, ça a du sens. Et justement, la blockchain, puisqu'on est là pour parler un peu de Web3, la blockchain, c'est le go-to-market idéal pour le chiffrement homomorphe. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu réfléchis à l'intelligence artificielle, quand tu réfléchis à une web app, quand tu envoies des données, ces données, elles ne sont pas rendues publiques. Elles sont sur le serveur d'une entreprise. Alors oui, cette entreprise peut se faire pirater. Oui, il peut y avoir de la surveillance. Mais si tu fais confiance à l'entreprise, si c'est Google, par exemple, ou Apple, bon, tu peux te dire, Google va pas se faire hacker, je peux leur faire confiance avec ma data. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que c'est possible. Dans la blockchain, le problème, c'est que tout est transparent. C'est que tout est visible à la terre entière. Chaque donnée, chaque transaction que tu fais sur la blockchain, n'importe qui peut voir le contenu. Donc, tu ne peux pas, en fait, si tu veux faire confiance à quelqu'un avec ta data, tu es obligé de t'exposer quand tu utilises une blockchain. Bah, avec notre technologie, tu peux avoir des blockchains où les transactions sont chiffrées de bout en bout et où les smart contracts opèrent sur des données on-chain qui restent chiffrées. C'est-à-dire que même les validateurs de la blockchain ne peuvent pas voir les données qui sont sur la blockchain. Il n'y a que les users et ce que les smart contracts leur autorisent à voir qui peuvent voir leur data.
C'est intéressant parce que ça permettrait finalement d'apporter un côté un peu privé à cette blockchain publique, de trouver un peu le meilleur des mondes. Parce que c'est vrai que quand on parlait de blockchain privée, finalement ce sont des blockchains qui. Enfin, c'est des intranets entre guillemets, c'est ce
Exactement.
système informatique.
Là, ça te permet d'avoir des blockchains permissionless qui sont publics, dans le sens que n'importe qui peut y accéder, mais où les données sur la blockchain restent confidentielles. Ça ouvre 1 million de use cases qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sur la blockchain.
Et bah parlons-en justement des use cases. Je suis allé sur votre site, hein, j'ai trouvé des use cases vraiment intéressants. On peut en prendre déjà, est-ce que tu en as un qui tient à cœur que tu souhaites.
Il y en a plein. Alors,
Ouais, ouais.
je vais dire ce que les gens font avec notre techno aujourd'hui. Donc, tu sais, moi, je vends une techno. Hein. Je suis pas un consumer guy. Je sais pas ce que les gens vont vouloir acheter. Je sais pas ce qu'ils veulent
Yes.
utiliser. Mais je sais ce que les développeurs ont besoin pour créer ces produits. Et ce que les développeurs aujourd'hui veulent créer, c'est quoi? C'est des jeux où tu dévoiles pas tout ce que tu as. Par exemple, le poker. Tu veux jouer au poker sur la blockchain. C'est pas très marrant, en fait, si jamais tout le monde voit tes cartes. D'accord. c'est pas fun. Et en fait, quand tu réfléchis au jeu, t'as une multitude de jeux qui nécessitent en fait d'avoir des secrets pendant le jeu. Tu vois, que ce soit de jouer à un jeu de cartes, que ce soit de jouer, je sais pas moi, un jeu de baston où dans ton sac, t'as les items privés que tu sors à un bon moment. T'as plein de use cases comme ça. D'ailleurs, on a même fait un bounty programme pour permettre aux gens de développer des jeux sur donc cette FHEVM, donc cette EVM avec du FHE à l'intérieur. Et on a déjà plus de 36 soumissions en l'espace de 3 mois de gens qui ont fait des jeux qui utilisent notre techno. C'est dingue quand tu y penses. 36 jeux. Tu vois, on n'y a pas encore tous joué, on va voir dans quelques semaines. Enfin, dans quelques semaines. Donc peut-être tu vas couper. On a eu 36 soumissions environ et plein de jeux super fun. Comme tu vas le dire en janvier, ça sera déjà public.
Ouais,
Comme ça, c'est
yes.
fait, quoi. Voilà.
OK.
Donc ça, c'est un use case. Un deuxième gros use case, c'est tout ce qui est compliance pour la finance. En fait, tu sais, aujourd'hui sur la blockchain, tu as toujours un peu cette dichotomie du tout ce que je fais sur la blockchain, c'est très compliqué d'être compliant. Tu vois, genre, je peux pas vraiment dire qui je suis parce que sinon les gens vont savoir ce que j'ai et tout ça. Avec notre techno, tu peux avoir par exemple ton identité. Donc imagine, tu fais ton KYC, tu chiffres ton identité, donc tes attributs, ta nationalité, ton âge et tout ça. Tu mets ça dans ton profil sur la blockchain. Donc tu as un genre d'identité on-chain chiffrée. Donc personne ne sait que c'est toi, personne ne connaît ton nom, personne ne connaît ta nationalité, ta date de naissance. Mais comme c'est on-chain, et comme tu peux du coup faire des queries avec le FHE sur ces attributs chiffrés de ton identité, bah maintenant d'un coup, quand tu fais par exemple un transfert de token, bah le token peut vérifier que tu as le droit de faire ce transfert à ce pays-là. Ou par exemple, quand tu utilises un protocole DeFi, le protocole DeFi peut vérifier que la régulation de ton pays te permet de faire de la DeFi. Ou tu veux accéder à du contenu adulte, on va pouvoir vérifier que tu as 18 ans ou plus, tu vois, sans que l'application qui offre le service ne sache quoi que ce soit sur toi. Donc tu vois, c'est génial parce que quand tu rajoutes cette couche en fait de compliance sur la blockchain, en fait, d'un coup, tu as tous les gros acteurs qui peuvent commencer à venir dessus. Et quand tous les acteurs viennent sur la blockchain, c'est là où tu te retrouves avec 1 milliard de personnes qui s'en servent.
Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que parlons de la DeFi, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui la DeFi, n'importe qui peut se connecter avec un wallet. Il n'y a pas de KYC. C'est un peu comme le début de la crypto, hein. Au début sur Binance, il n'y avait pas besoin d'avoir un KYC pour pouvoir trader du
Ouais.
Bitcoin. Et là, c'est un peu pareil. D'ailleurs, tu parlais d'identité, c'est intéressant. Alors pour parler aussi des ce qu'on appelle les zero knowledge proof. Donc les CKP, hein, la traduction littérale en français, c'est preuve de divulgation nulle de connaissances. C'est quoi la différence justement entre le chiffrement homomorphique et le ZKP? Est-ce que
Alors,
c'est
c'est une très bonne
complémentaire?
question. En fait, le ZK, donc les preuves zero knowledge, te permettent de prouver que tu as fait quelque chose avec la data sans dévoiler la data. Donc, c'est une façon, si tu veux, de générer une preuve que l'exécution a été faite correctement. Le FHE, ça te permet de faire les calculs directement sur les données chiffrées. Donc, en fait, le ZK, c'est pas une vraie technologie de privacy parce que le prouveur, lui, il doit voir la data. C'est le vérifier qui n'a pas besoin de voir la data. Mais en fait, le vérifier, il peut pas faire autre chose que vérifier, en fait, le calcul. Tu vois? Donc, si tu veux, le problème du ZK, c'est que ça bouge le problème du privacy d'un problème on-chain à un problème off-chain. Mais bon, le prouveur, il voit tout, donc il voit tout. Donc, finalement, tu as un serveur centralisé qui voit toute la data. Donc, c'est pas mieux que du Web 2. Tu vois? Par contre, c'est très bien pour la scalabilité. Tu vois? Parce que ça permet justement de faire des trucs off-chain, de prouver que tu les as faits, et donc, tu n'as pas besoin de faire tous ces calculs on-chain. Le FHE, ça permet de faire les calculs directement sur la donnée chiffrée on-chain. Donc en fait, le FHE, c'est la bonne stratégie pour protéger la vie privée dans la blockchain. Le ZK, c'est la bonne stratégie pour scaler la blockchain. Donc dans un monde idéal, ce que tu veux vraiment, c'est du ZK FHE. C'est-à-dire que tu veux utiliser le ZK pour faire des roll-up FHE qui te permettent d'avoir des milliers de transactions privées sur tes blockchains. Mais la donnée en elle-même sur laquelle tu fais ton calcul, sur le prouveur du coup, elle est faite en FHE.
Ok. Bah, donnons un exemple peut-être un peu concret. Tout à l'heure, tu disais par exemple, je veux prouver que j'ai telle nationalité pour utiliser tel produit. Et donc, ça veut dire que concrètement, le prouveur, entre guillemets, grâce au ZK, le prouveur, justement, il devrait avoir accès à cette donnée,
C'est
uniquement cette
ça.
donnée et pas les autres. Et en plus, cette donnée, tu pourrais l'encrypter pour pas qu'il puisse la voir, mais qu'il puisse
C'est
avoir
ça.
l'information.
Exactement. Exactement. Donc, quand tu veux prouver quelque chose sur ta data personnelle, en vrai, le ZK, ça marche, parce que tu es le seul à avoir accès à la data. Mais dès que tu as besoin de composabilité, ou dès que tu as besoin d'avoir plusieurs users qui collaborent ensemble, c'est là, en fait, où le ZK ne marche plus d'un point de vue de privacy, parce que le prouveur, du coup, doit être partagé entre toutes ces personnes-là et tous ces contrats. Donc, ça, si tu veux, t'as pas vraiment de solution avec le ZK, tu es obligé de faire du FHE. Et c'est là où le FHE, en fait, rentre en compte. C'est cette idée que le prouveur, potentiellement à terme, pourra prouver des choses sur des données chiffrées plutôt que tu fasses le calcul on-chain. Et c'est comme ça que tu as la scalabilité sur le très long terme.
Ok. Et justement, un des use cases aussi, tu vois, que j'avais vu sur le site, c'était les transferts privés. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque justement que, enfin, on sait qu'il y a quand même une régulation de plus importante de la part des États, qu'on se retrouve finalement avec des échanges anonymes et que, par exemple, quand on parle de privacy, moi je pense par exemple à Monero, qui était une monnaie privée, qui a été justement vraiment bannie de tous les exchanges centralisés parce que grosse pression du régulateur. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là justement d'avoir un manque de transparence?
Alors justement non. Parce qu'il y a deux choses en fait dans la blockchain. Tu as la traçabilité des transactions et tu as la confidentialité du contenu. Okay? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est un peu comme Tor versus Signal. Quand tu te connectes à un site sur Tor, le site est public, mais la trace de la connexion est anonyme. Ça, c'est l'équivalent de Monero. Okay, c'est-à-dire que tu vois le montant qui a été transféré, mais tu ne sais pas entre qui et qui le montant a été transféré. Signal, tu vois le trafic sur le réseau, tu vois que mon numéro a envoyé un message à ton numéro, mais tu ne vois pas le contenu du message. Ça, c'est le FHE. C'est-à-dire que tu vois que toi et moi, on a fait une transaction, mais tu ne vois pas le montant, tu ne vois pas le contenu de la transaction. Donc, ce que les gouvernements, ils n'aiment pas, c'est l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas aller toquer sur la porte de quelqu'un en disant « montre-moi ta data », ben, c'est compliqué pour eux. Mais si la donnée, elle est chiffrée, mais qu'ils peuvent quand même te retracer, qu'ils peuvent quand même venir chez toi et te demander de dévoiler la data, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, en passant, le FHE, tu pourrais parfaitement, dans ton smart contract, intégrer des règles de compliance. C'était même pas obligé d'espérer que le user va être compliant. Tu peux faire que l'application est compliant. Alors, je dis pas que c'est le monde qu'on veut, hein. Le but, c'est évidemment pas de faire ça. Mais si tu voulais le faire, tu pourrais le faire. Donc, c'est ça vraiment la grosse différence. C'est que le FHE te permet quand même d'avoir la traçabilité sur la blockchain, alors que Monero et les autres, justement, te permettent pas d'avoir ça. Tor versus Signal. Tor, tout le monde déteste. Signal, tout le monde s'en sert.
Et ouais, Signal, hein, c'est un peu l'équivalent de Telegram. Et c'est intéressant de le rappeler aussi, hein, que la blockchain, aujourd'hui, comme on la connaît, elle n'est pas anonyme. Loin de là, elle est pseudonyme. Donc on est
Exactement.
capable de voir qui a fait une transaction à qui. Et pour venir sur les use cases, je voyais qu'il y avait d'autres use cases intéressants. Par exemple, il y avait le blind auctions, donc
Pour les NFT, par exemple.
ouais, pour les NFT. Ce qui est
Par
donc des
exemple.
enchères à l'aveugle. Hein. C'est intéressant, c'est-à-dire que si l'enchère se fait, le montant n'est pas révélé, par
Et les
exemple.
bids aussi sont pas révélés.
Et les
Donc,
bits sont pas révélés, surtout,
t'as
ouais.
pas ce problème, tu vois, que les gens, du coup, peuvent surbider les autres. T'as pas tous ces, tu vois. Alors, bon, après, tu as plusieurs systèmes de bidding. Mais là, en fait, où le blind auction, c'est vraiment intéressant, c'est pour le matching d'ordre OTC, par exemple. Parce que, tu vois, si jamais tu avais un marché OTC, ou c'est quoi un order book? Qu'importe, un order book on-chain. Ben, le problème, c'est que tout le monde voit l'order book. Donc, tu as du MEV, tu as tous ces trucs-là, quoi. Tu vois, tu as tous ces problèmes, en fait, de front running que tu n'aurais pas dans la finance traditionnelle. Ben, avec le FHE, finalement, quand les gens font un bid, c'est une auction, hein, quand tu penses, hein, tu peux le voir comme ça, ben, en fait, les gens ne voient pas forcément le bid qui a été fait, donc ils ne voient pas l'order book. Donc, le matching se fait sans que les gens puissent gamifier et front-runner les transactions.
Ok, c'est un super exemple. D'ailleurs, on en avait parlé avec Oliver Daplo, qui avait commencé en fait son produit avec justement ce qu'on appelle une black pool, hein, donc justement un carnet d'ordre
Exactement, voilà. Ouais.
où il n'y a pas d'ordre visible, parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent, hein, réalisé dans la finance
Une
traditionnelle.
dark pool en FHE,
Une dark pool, ouais.
avec notre technologie, c'est 30 lignes de code.
Ok.
Pas
Parce
mal.
que vous c'est pas mal, ouais. Parce que vous, votre solution, finalement, c'est vraiment un peu une sorte de plug and play, c'est-à-dire que tu peux facilement l'intégrer à ton smart contract sur la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains
Alors,
EVM compatibles.
la FHEVM, en fait, c'est une librairie de pre-compile que tu dois rajouter à ta blockchain. Donc Ethereum aujourd'hui n'intègre pas ses pre-compiles parce que c'est pas vraiment l'objectif d'Ethereum de faire ce genre de calcul. Par contre, n'importe quelle blockchain EVM peut, en intégrant nos librairies et en faisant en fait en gros un upgrade de leur EVM, quoi, tu vois, donc c'est un soft fork, hein, finalement, pourrait avoir en fait ces fonctionnalités de FHE. Ce qui est intéressant, c'est que notre techno ne change rien à ta blockchain existante. Si tu veux t'en servir de manière complètement publique et complètement visible, tu peux, ça ne change rien. Donc tu peux prendre une blockchain existante et sans rien changer, sans rien casser, tu peux permettre aux développeurs de commencer à développer ces applications secrètes, tu vois, ces applications confidentielles. Donc, on a vraiment mis le paquet pour que les développeurs de smart contracts n'aient jamais besoin de se poser la question de la cryptographie et de comment ça marche. Ils écrivent du code Solidity et c'est tout.
Hyper intéressant. Donc vous, votre barrière à l'entrée, je dirais, c'est vraiment en fait d'être intégré par chaque blockchain EVM compatible.
J'ai envie de dire, notre barrière à l'entrée, c'est qu'on a 35 PhD qui font partie des meilleurs du monde dans le domaine et que c'est pas facile de développer ce genre de techno. On est globalement les seuls à avoir une techno qui marche. T'as beaucoup de gens qui ont des technos qui marchotent. Et quand je veux dire marchotent, c'est-à-dire que ça va marcher dans quelques use cases, mais pas dans d'autres. Ou alors, ça va te permettre de faire certains trucs, mais assez limités. Ou alors, ça va être beaucoup plus lent. Ou alors, c'est moins sécure, tu vois. Ou alors, j'en sais rien, moi, ils ont peut-être pas pensé à la taille que fait la data sur la blockchain. Et donc, au bout d'une semaine, ta blockchain, elle est full, quoi, tu vois. Tous ces trucs-là, en fait, finalement, qui sont même pas du FHE, qui sont tout ce qu'il y a autour pour juste que ça marche dans un produit, on est les premiers aujourd'hui à avoir quelque chose de véritablement performant. Et donc, ça, c'est toujours amusant parce que, tu sais, dans la communauté, tu as toujours des gens qui vont sortir des projets en mode ah, j'ai fait un truc, c'est 10 fois plus rapide que Zama. Mais en fait, quand tu regardes en pratique, ce que tu t'aperçois, c'est que déjà, c'est 10 fois plus rapide, mais que sur un seul truc. Ça fait pas tout le reste qu'on est capable de faire. Donc, ok, pour ce use case, très bien, tu as gagné, mais tu peux rien faire d'autre. Ou alors, c'est pas sécure. Moi, je peux faire du FHE qui est 100 fois plus rapide, mais que quelqu'un peut casser avec un laptop en 4 heures. Donc, pas très intéressant, j'ai envie de te dire. Ou alors, pire, ils essayent d'inventer une nouvelle crypto qui n'a jamais été validée par la communauté. Il faut pas inventer de la crypto. Les gens, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur des primitives avant de se dire, OK, on peut s'en servir pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais.
Et donc, tu vois, c'est un peu le problème, c'est que c'est facile de développer des solutions qui ne marchent pas ou qui ne sont pas sécures. C'est très dur de faire quelque chose qui existera encore dans 30 ans.
Ouais,
Tu
complètement.
vois. Et une blockchain, il faut que ça existe dans 30 ans.
Ouais, complètement. Aujourd'hui, vous êtes intégré sur quelle blockchain?
On en a plein qui sont en train de nous intégrer, mais on n'a pas le droit d'en parler tant qu'eux n'ont pas
Ok.
annoncé, hein, comme tu peux imaginer.
D'accord.
Tu en
Vous
as
êtes en
une qui a
process.
annoncé publiquement pour l'instant, qui s'appelle Phoenix. Donc Phoenix, en fait, c'est une optimistic roll-up pour Ethereum, qui en fait des FHE roll-up. Donc c'est Arbitrum, mais où les transactions sur ta roll-up, en fait, sont en FHE, sont chiffrées. Donc ça, c'est l'équipe, en fait, derrière Secret Network qui a lancé ça. Donc c'est des vétérans de la blockchain, les gars, ils connaissent par cœur, ils sont super forts. Franchement, c'est une des meilleures équipes d'un point de vue de privacy blockchain, quoi. Donc eux, ils ont utilisé notre techno pour développer du coup leur FHE roll-up, qu'ils vont lancer bientôt. Ils ont levé un seed, ils ont levé 7 millions en seed avec Multicoin, enfin bref, bon, je te laisse imaginer un petit peu l'histoire, quoi. Donc ça, eux, c'est les premiers qui l'ont annoncé publiquement. On en a d'autres là qui vont bientôt s'annoncer, des nouvelles blockchains, mais aussi quelques gros protocoles, donc dans le top 10, hein, je te parle, qui sont en train de développer des blockchains parallèles qui te permettent d'avoir ces confidentialités. Donc pourquoi en parallèle? C'est qu'en fait, le FHE, quand bien même aujourd'hui ça marche bien, c'est quand même plus lent que si tu fais pas de FHE. Donc en gros, tu vois, aujourd'hui, on est capable d'avoir entre 5 et 10 transactions par seconde en FHE. C'est largement suffisant pour plein de use cases, mais t'es pas aux 1000 transactions par seconde d'un Solana, par exemple. Tu vois? Donc plutôt que de ralentir ta blockchain principale, en fait, ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est le bon modèle, en fait, à réfléchir, c'est que les gens sont en train de créer des blockchains parallèles ou des roll-ups qui te donnent la confidentialité. Et donc, en fait, les users, juste, ils passent de l'une à l'autre. Un peu comme dans ton browser quand tu te mets en private mode. Tu vois, tu as deux browsers, en
Ouais.
fait. Tu as le browser private, tu as le browser public, entre guillemets. Ça sera pareil dans les blockchains. Et tu passeras de l'un à l'autre. Ah, ben là, je vais te faire un transfert privé. Je saute sur la blockchain parallèle FHE. Je fais mon transfert et je reviens sur la blockchain principale.
Ouais, intéressant. Et donc on va assister à une multiplication des L2, enfin des layer 2 hein, de manière générale,
L2, sidechain, qu'importe le modèle.
sidechain,
Mais en
peu
tout
importe,
cas, oui,
oui.
je pense qu'en fait, la confidentialité dans la blockchain, ça ne sera pas intégré dans les L1 existantes pour des questions de performance et de coût d'opération, mais ça existera en fait autour. C'est comme un. Enfin, ça a l'air de quoi. Il n'y a pas d'autre mot
Ouais,
pour le dire.
carrément.
C'est vraiment le terme.
Yes. Et aujourd'hui, c'est quoi les use cases, enfin les acteurs en dehors des blockchains hein, avec lesquels vous discutez le plus? Tout à l'heure, on parlait de santé, d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels il y a des besoins ou en fait, c'est vraiment tout ce qui est app, en fait, il n'y a pas de limite?
Alors en fait, bon, à terme, je pense qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, la blockchain, c'est là où il y a le plus de demandes, pour les raisons que je t'ai expliquées. Donc tout est transparent, il faut une solution. Excuse-moi. On voit beaucoup de demandes en fait aussi dans la TradFi. Parce qu'en fait, la TradFi, elle veut utiliser la blockchain, mais elle peut pas se permettre de tout dévoiler publiquement. Et quand je te dis qu'elle veut utiliser la blockchain, c'est pas forcément des blockchains permissionless. Ça peut être des blockchains interbancaires. Mais elles ont quand même pas envie de se dévoiler entre banques tout ce qu'elles sont en train de faire. Donc le FHE, c'est une solution en fait à ça. Donc même dans la TradFi, où il n'y a pas de token, il n'y a pas de Web3, il n'y a pas de jeu, tu as quand même une opportunité d'utiliser le FHE. Donc les CBDC, ça va avec aussi. Un gros use case que j'adore, c'est celui d'identité digitale. Parce qu'en fait, avec le FHE, tu peux avoir une identité digitale centralisée, plutôt que telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sur ton téléphone, quoi, sans que personne qui utilise la base de données ne voit toute la base de données. Donc ça résout les problèmes en fait de bases de données d'identité centralisées qui ont toujours fait peur aux gens, d'ailleurs, qui ont fait que la CNIL a existé en passant en France. Hein, ça a été créé à cause de ça. T'as les use cases dans l'IA, bien évidemment. Donc, on le voit de plus en plus. Donc, ça, c'est intéressant. Tu vois, comme je te dis, en fait, le problème de l'IA, c'est que les performances aujourd'hui qu'on a ne te permettent pas de faire encore des gros modèles. C'est-à-dire qu'on peut le faire d'un point de vue mathématique, mais tu vois, ChatGPT, ça mettrait plusieurs heures à te répondre. Donc, bon, pas exactement très user-friendly. Avant que l'intelligence artificielle devienne un gros user du FHE et le cloud en général, il faut globalement avoir un facteur 1000 d'accélération sur les performances du FHE. Et ça, on va y arriver grâce à des puces spécialisées pour accélérer le FHE. Donc comme des genres de GPU, mais pour le chiffrement homomorphe plutôt que pour le machine learning. Tu vois?
Ok.
Et ça arrive dans 2-3 ans à peu près.
Ouais, parce que j'imagine que ça, enfin, c'est un peu la loi de Moore, quoi. C'est-à-dire que ça va à une vitesse incroyable, le développement, la puissance
Mais
de puce.
en fait, même avec même sans aller jusque-là, en fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu fais des calculs en FHE, la majeure partie de ton temps, elle est faite à faire un ou deux calculs spécifiques. Sauf qu'en fait, ton processeur, ton CPU ou ton GPU, il n'a pas été designé spécialement pour ça. Donc tu perds énormément en fait de temps parce que le truc est générique plutôt que spécialisé. Donc là, l'idée, c'est que tu fais ce qu'on
D'accord.
appelle un ASIC. Donc de la même façon que tu as des ASIC pour le mining Bitcoin, donc des puces spécialisées pour miner le Bitcoin, tu auras des ASIC, donc des puces spécialisées pour faire des calculs FHE.
Ok, donc là il ne s'agit pas d'améliorer la performance, juste de redesigner pour être que ce soit compatible en fait avec
Ouais,
cette.
c'est ça. En
Ok.
fait, ce que normalement tu fais dans le software, tu le fais dans le hardware.
Ok. Aujourd'hui, par rapport au chiffrement homomorphique, vous êtes vraiment les seuls à travailler là-dessus ou il y a d'autres boîtes
Non, heureusement, on a des concurrents. Si on n'avait pas de
Ouais.
concurrents, ça serait pas un marché.
Ouais.
Non, non, on a des concurrents. T'as deux autres boîtes. Enfin, en fait, d'un point de vue de techno, globalement, d'un point de vue de techno, t'as deux grandes familles de techno que les gens utilisent. Tu as TFHE, qui est la techno que Zama développe, et tu as CKKS, qui est la techno qu'une boîte en Corée développe. 100% de toutes les boîtes FHE qui font des trucs de pointe utilisent soit notre techno, soit la techno de cette boîte en Corée. Les autres
Ouais, donc vous...
technos, elles servent un peu plus à rien. C'est, enfin, il y a peut-être des use cases où ça sert, mais c'est tellement limité en termes de use case que ça sert un peu à rien. Donc en fait, tu as deux boîtes qui possèdent globalement toute la techno sur la Terre là-dedans, c'est nous et cette boîte en Corée. Nous, on est vraiment axé sur la partie blockchain, machine learning, on est très open source. La boîte en Corée, elle est un petit peu plus enterprise, closed source et tout ça. Et après, tu as quelques boîtes aux États-Unis qui sont très fortes en termes de biz dev, qui elles, en fait, tu vois, vont faire plein de use case enterprise et tout ça. En blockchain, on commence à voir émerger quelques players. Mais je dirais que pour l'instant, ce qu'ils ont sorti n'est pas, je dirais, bon, c'est des bons ingénieurs, mais c'est pas. Je m'inquiète pas trop, quoi, on va dire. Tu vois. Et puis
Ok.
d'ailleurs, en passant, moi, mon but, c'est pas d'avoir 100% du marché. Ça me va très bien d'avoir 95%. Tu vois?
Et non mais attends, je te propose de revenir un peu sur les coulisses de la création, c'est-à-dire que quand tu as eu
Ouais.
l'idée, parce que pour c'est intéressant aussi après de comprendre, tu disais que vous étiez un peu une armée de PhD dans la team. J'imagine que ça aide hein, pour développer
Dis-toi un
un
truc.
produit aussi
Un
complexe.
chercheur sur 10 qui travaille sur le FHE dans le monde travaille chez Zama aujourd'hui.
Ouais, c'est fou. Comment t'as réussi à les attirer parce que pour revenir à la genèse du projet, comment t'as
Mon cofondateur, qui est une star.
OK.
Mon cofondateur, c'est comme si je te dis Yann LeCun dans le machine learning, mais pour le chiffrement homomorphe, quoi. C'est un des inventeurs du domaine, tu vois. Donc, quand t'es là-dedans depuis 30 ans, que t'es un des mecs les plus connus dans le domaine, bah, tu connais tout le monde. Tout le monde veut travailler avec toi. Donc, tu vois, c'est les meilleurs attirent les meilleurs, en fait, finalement. Donc, c'est un effet boule de neige où tu te retrouves, en fait, avec une équipe absolument incroyable. Enfin, moi, honnêtement, je suis humble quand je regarde la qualité de mon équipe. Je me dis, mais c'est incroyable qu'on a réussi à ramener tous ces gens ensemble dans ce projet-là. Genre, putain, moi, je pensais que j'étais bon, j'ai fait un PhD en AI, machin, tout ça, mais genre, je suis nul en comparaison aux autres gars dans mon équipe. Tu vois?
Ouais. Et c'est
Vraiment.
intéressant, vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe aujourd'hui hein?
On est 70 dans l'équipe.
Ok.
Dont la moitié du coup qui font de la recherche en FHE, ce qui fait nous la plus grosse équipe de recherche du monde en fait dans le domaine.
Ouais, c'est fou. Et bah, pour venir un peu sur les différentes étapes de la création, donc au début, quand tu as eu l'idée, tu as directement levé des fonds avec ton associé ou comment ça s'est passé
Oui, alors c'était pas très dur, je venais de vendre ma boîte. Donc bon,
Donc tu
je
avais un bon
t'avoue
track
que
record.
j'ai un track record, tu vois, ma boîte je l'ai bien vendue, les gens ils ont fait de l'argent. Donc quand j'ai fait mon pré-seed, j'avais plusieurs offres en fait de VC qui me faisaient des énormes chèques. Mais je m'étais dit, j'ai pas envie de prendre trop d'argent tout de suite, parce que sinon ça va être compliqué pour moi de deliver. Donc je suis allé voir juste en fait les angels que j'avais dans ma boîte d'avant et à qui je voulais travailler. Je leur ai dit, les gars, on va lever juste 1 million à une valo de genre 8 millions. Ce qui est rien. Tu vois, quand tu viens de vendre ta boîte, tu peux lever à 50 millions de valo direct. Tu vois. Et j'ai dit, par contre, je vous préviens, on va pas faire 1 euro avant 3 ans, parce que la techno aujourd'hui, elle n'existe pas. On pense qu'on va y arriver, mais il va falloir la développer. Et il nous faut à peu près 3 ans de R&D. Donc tu vois, j'ai annoncé la couleur tout de suite. Donc les gens, du coup, ils te font confiance. Donc ils investissent un pré-seed. Quelques mois après, on lève un peu moins de 7 millions en seed. D'accord? Là, on a commencé à faire entrer des fonds. Donc c'est deux fonds allemands et un autre gars qui ont mis l'argent. 6 mois après, on a relevé une série A. Et donc au total, tu vois, notre série A, elle a fait 70 millions.
70 millions, ok.
Donc tu vois, on a fait 1 million, 7 millions, 70 millions.
Ok, ouais.
C'est pas mal.
Ouais.
Tu vois, et toujours, en fait, si tu veux, avec cette honnêteté de dire, ce qu'on est en train de faire, ça va changer le monde si ça marche. Par contre, pour l'instant, ça marche pas. Donc, il faut nous laisser le temps de faire marcher le truc. Tu vois.
Ouais, concrètement. Ouais,
et maintenant que ça marche, et maintenant qu'on commence à le déployer, on est en train de voir la valeur qu'on est en train de créer. Tu vois, je te le signe. La blockchain, le FHE, ça va devenir un truc que tout le monde va finir par utiliser parce qu'en fait, c'est évident.
Ouais.
C'est évident. Et donc, moi, mon pari, c'était ça. C'était de dire, on va passer 3 ans de R&D pour ensuite être capable de lancer une techno qui marche vraiment pour faire des centaines de millions de dollars très rapidement. Tu vois, donc c'est ça la deep tech en fait. La deep tech, c'est zéro, puis t'as craqué le problème et t'enable en fait un marché d'un coup en fait. Tu vois, c'est pas du SaaS où t'augmentes petit à petit. C'est, il y a pas de client parce que la techno marche pas, puis la techno elle marche et là d'un coup le marché il existe et t'es meilleur positionné pour l'attraper, tu vois.
Ouais, en fait, tu crées vraiment un marché.
Tu crées un marché.
Où, en fait, ouais, tu crées vraiment les use cases qui manquaient. D'un coup, ils sont possibles.
C'est ça.
Et donc, c'est ça qui va permettre la fameuse adoption du fameux.
Exactement.
Bien. Et quand vous avez élevé les 70 millions, c'est sur quel valo?
C'est pas public, mais une grosse
valo. Pas public. Ok. J'en doute pas. Et après, donc, au fur et à mesure, vous avez recruté.
Ouais, on recrute un peu continuellement. Moi, j'ai toujours un peu la hantise de grossir trop vite. Mais bon, après, tu sais, le problème, c'est quand tu commences à avoir des partenaires et des clients, faut deliver, quoi. Tu vois, et là, c'est pas que de la recherche. Tu vois, il y a l'ingénierie, il y a du produit, il y a du support. Enfin, le support, pour nous, c'est super important. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement obsédé par rendre nos produits faciles à utiliser et par le fait que les gens y arrivent que dans quasiment tous les cas, quand les gens viennent nous voir, ils ont déjà développé leur proto. Et ils ont juste besoin de parler de business. Tu vois, tout ce qu'on fait est open source. 100%. Chaque ligne de code chez Zama est open source. Donc, quand tu as envie de t'en servir, tu n'as pas besoin de venir nous voir d'abord. Tu t'en sers, tu fais ta vie. Une fois que tu es content et que tu es satisfait que ça va marcher pour toi, tu viens nous voir et on parle business.
Mais vous avez quand même un département, je ne sais pas, customer support qui peut accompagner vos clients dans l'intégration. Ouais.
Bien sûr. Et puis, on a aussi beaucoup de community support. Donc chaque équipe, tous les ingénieurs de la boîte en fait sont au taquet pour répondre aux utilisateurs quand ils ont des questions. Et bien sûr, évidemment, quand on a des gens qui payent pour la techno, on a des channels privés sur Slack avec du support. Enfin, évidemment, on a tout ce que tu peux imaginer de premium à ce niveau-là, quoi.
Et aujourd'hui, vous avez combien de clients qui utilisent la techno?
Combien de clients? C'est difficile à dire. Je pense.
Pour avoir une idée, est-ce qu'on parle de dizaines?
Ouais, plutôt de dizaines, ouais.
Okay.
Ouais, plutôt
dans des use cases.
C'est nouveau, hein. Tu sais, on a commencé à commercialiser il y a 6 mois. Hein.
Ouais, carrément. C'est déjà,
mais
c'est
tu vois, les contrats, c'est des contrats à plusieurs millions de dollars chacun.
Ok, ouais, c'est des grosses entités en fait.
C'est des gros contrats. Ouais, c'est des gros contrats. Ouais. Et donc tu vois, c'est un peu. Bah, si tu veux, c'est normal. Encore une fois, on ne fait pas du SaaS. Tu vois, nous on est là, on est un enabler de use case. Donc ce que nous on espère, c'est que ce qu'on prend comme fees va être multiplié par 100 par le use case que nos clients vont pouvoir faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, eux vont faire 100 fois plus d'argent que nous grâce en fait à cette techno. C'est le but.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est quoi votre business model? Est-ce que tu peux en dire un peu plus?
Pour le Web2, c'est volume-based. Donc, en gros, globalement, on prend un montant par heure de calcul que tu fais, quoi, concrètement. Plus du support. Donc, hyper classique, hyper vanilla, on n'invente rien. Côté blockchain, quand il y a un token, on prend donc des tokens plus un pourcentage en fait des revenus que font les validateurs.
Ok. Et bah, j'imagine que vous avez une techno tellement de rupture que vous avez été sûrement approché par des mastodontes de la tech. Toi, c'est quoi ta vision? C'est de continuer de faire cavalier seul ou potentiellement te...
Ah mais attends, tu sais, alors, je vais dire un truc. C'est marrant, cette question, on me l'a posée. J'ai démarré Zama une semaine après avoir vendu ma dernière boîte. Les gens m'ont dit, mais mec, mais t'es un ouf, tu viens de vendre ta boîte, t'as du fric, mais genre, en plus, tu vois, je suis dans la crypto depuis longtemps, donc honnêtement, j'avais pas besoin de travailler, tu vois, à ce stade. J'aurais pu prendre plusieurs années de vacances, parcourir le monde, comme tous ces entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. Mais je me suis dit, combien de fois dans ta vie, t'as l'opportunité de travailler sur une techno qui est aussi game changer, avec le cofondateur idéal, au moment parfait? Ça arrive pas très souvent des opportunités comme ça. Et je serais pas un vrai entrepreneur si j'avais pas été excité par l'idée de le faire. Tu vois, donc en fait, ce qui m'a excité, c'est pas juste de regagner encore quelques millions. Non, ce qui m'a excité, c'est de résoudre un problème à l'échelle globale. Tu as résolu un vrai putain de gros problème, quoi. Et ça, je pars du principe que si tu y arrives, tu crées de la valeur économique disproportionnée aussi.
Ouais, complètement. Et tu vas en dire un peu plus peut-être sur les coulisses de Zama. J'imagine que tu as rencontré des difficultés quand même depuis le début. C'est quoi ces difficultés en particulier? Est-ce que vous avez commis des... Quelles sont les erreurs que vous avez commises?
Alors, c'est beaucoup plus facile la deuxième fois quand tu montes une boîte. Ouais. Tu vois, ça, quand j'ai vendu ma première boîte, j'ai fait une liste de toutes les erreurs que j'avais faites. Tu vois, donc j'ai une master list, genre the 100 things that fucked up in my previous company, quoi, tu vois. Et je me suis assuré de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et en fait, en vrai, ce qui avant, je pense, était des erreurs, c'était surtout en fait un manque de connaissance de ce qui comptait vraiment. Quand t'es un peu un first-time entrepreneur, t'as tendance à vouloir réinventer la roue sur tout et n'importe quoi. Tu veux réinventer les strategies management, tu veux réinventer les salaires, tu veux réinventer le UX, tu veux réinventer les outils de CI, tu veux tout réinventer en fait, tu vois. Mais en fait, assez rapidement, ce que tu t'aperçois, c'est que c'est pas ça qui est important. À moins que ta boîte soit une boîte qui innove dans le domaine des salaires, c'est pas ton job de réinventer les grilles de salaire. Tu vois, ton job, c'est de prendre ce qui marche. Tu vois, donc en gros, tu prends le template de Google de comment ils gèrent leur organisation, quoi. Tu vois. Et de focus sur résoudre des problèmes qui sont uniques à ta boîte. Donc nous, en l'occurrence, c'était faire en sorte que le FH marche, faire en sorte que le développeur puisse s'en servir et faire en sorte que ça aille vite. Tu vois. Et donc, quand tu comprends ça, bah, déjà, tu vas beaucoup plus vite. Tu perds pas de temps, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que 100% de tes efforts sont focalisés sur les choses les plus importantes. Alors, évidemment que tu pivotes. T'essayes un truc, ça marche pas, tu passes à autre chose. Mais ça fait partie du jeu. Personne n'a raison la première fois. Tu vois, c'est un process itératif. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Le deuxième truc le plus important, et ça, c'est un super conseil, en fait, que j'avais eu d'un super entrepreneur à l'époque qui m'avait dit, ta boîte, c'est pas ton bébé. Ta boîte, c'est une boîte. C'est un moyen d'arriver à ta vision et à tes ambitions dans la vie. Et quand tu comprends ça, t'es beaucoup moins émotionnellement attaché à ce qui se passe au jour le jour. T'as perdu un client, fais chier, on fait un post-mortem, mais ça fait partie du jeu. Je vais pas dormir parce que j'ai perdu un client, tu vois. T'as un de tes top employés qui se barre pour monter une boîte concurrente, ça fait partie du jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans ma première boîte, putain, pendant 3 jours, je dormais pas, mec. Tu vois, j'avais l'impression que j'avais raté, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et le jour où tu comprends ça, le jour où t'arrives, si tu veux, à gérer une boîte de manière stratégique et pas de manière émotionnelle, ça change tout. Ça change tout. Déjà, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, pour commencer. Je suis beaucoup moins stressé. Enfin, ça se passe juste 1000 fois mieux, quoi.
Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu développes un tel projet d'envergure avec une techno de rupture que tu es pour autant des horaires vraiment...
Non. Je viens d'avoir un fils de 4 mois.
Ok, félicitations.
Bon, tu vois, donc, si. Mais tu vois, donc, si tu dis à un entrepreneur, le mec, il vient d'avoir un gamin, alors que sa boîte, elle est comme ça, ça paraît dingue. Non, moi, ça me va très bien. Enfin, j'ai une super femme, en plus, qui est géniale, tu vois, qui s'occupe trop bien du bébé pour l'instant. Enfin, tu vois, tout se passe super bien. J'ai même le temps d'aller à la salle de sport le matin quand j'ai envie. Enfin, tu vois, genre, le cliché de l'entrepreneur qui bosse de 6h du mat à minuit tous les jours, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, tu fais ça, ta première boîte, parce que tu sais pas sur quoi tu dois bosser, tu sais pas déléguer, tu sais pas, tu vois, tu focuses pas, quoi.
Ouais, il y a peut-être ce biais, tu dis, bah, plus je passe du temps, plus j'aurai du résultat, alors que c'est.
Bah, non, c'est faux.
Contre-productif, ouais.
C'est faux. Mon job à moi, c'est de donner la direction, c'est de lever de l'argent, et c'est, en gros, de faire le job la première fois avant de trouver quelqu'un pour le faire à ma place. Tu vois, donc je suis le premier dev, je suis le premier sales, je suis le premier marketeur, je suis le premier legal officer. Et au fur et à mesure, je recrute des gens et je délègue. Donc, in fine, en tant que CEO, ton but à terme, c'est de ne rien faire d'opérationnel. C'est d'avoir tout délégué, mais il faut tout comprendre de ce que tu as délégué. Il faut être capable de savoir que les gens ont fait le job correctement et de leur donner la vision et la stratégie que tout le monde doit suivre. Mais l'exécution opérationnelle au jour le jour, c'est pas le job d'un CEO à terme. C'est ton job au début, mais c'est pas ton job à la fin.
Ouais, complètement. Maîtriser la tâche avant de la déléguer. Et c'est quoi tes grandes tâches là au quotidien, du coup? Tu faisais à partie levée de fonds, partie commerciale.
Là, en ce moment, j'ai un job, c'est de vendre le produit.
Ouais.
Comme c'est nouveau, comme le commercial est nouveau chez nous, tu vois, on n'a même pas encore on n'a même pas de sales en fait chez nous, on n'a personne, tu vois. Donc on le fait un peu ad hoc. Hein, donc Jason, qui n'est pas sales, le fait avec moi. Gazi, génial, enfin tu vois, on est plusieurs. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de parler avec un maximum de boîtes pour comprendre ce qu'elles veulent, pour comprendre ce qu'on peut leur offrir. Et pour essayer, en fait, de faire des deals, tu vois.
Ouais.
Et une fois que j'aurai compris ça, qu'il y aura le playbook, c'est là où tu peux monter une équipe et que tu délègues et que, tu vois. Donc, comme avant, par exemple, mon focus avant, c'était le produit. Je faisais que du product. Toute la journée, je réfléchissais au product, 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 product. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens vont utiliser? Tu vois?
Du coup, tu étais un peu dans la peau d'un product manager ou head of product, c'est-à-dire que tu lisais les devs, tu gérais la roadmap. OK, intéressant.
Oui, et au fur et à mesure, j'ai délégué à d'autres gens. Tu vois, donc par exemple, sur la partie blockchain pour la FHEVM, au début, il fallait une impulsion. Donc j'ai vachement été impliqué, tu vois, dans le design du produit, même dans quelques choix en fait techniques et tout ça. Aujourd'hui, j'ai un weekly avec eux, mais je ne suis plus du tout aussi impliqué day to day, tu vois, dans les choix qui sont faits sur le produit, parce que le produit marche. Par contre, je suis dans toutes les discussions autour des partenaires et des clients. Et je lis 100% de tous les messages de support qu'on reçoit.
Ok, ouais, intéressant. J'imagine
que c'est stratégique. Je veux savoir ce que j'en pense, en fait.
Ouais, bien sûr, carrément. Ouais. Parce que le support, c'est un peu les yeux de la boîte. Quoi.
Moi, j'adore en plus, tu vois. J'adore répondre, en fait. Quand je peux répondre, j'adore répondre parce que c'est, ça me donne, si tu veux, une idée de ce qu'on peut améliorer.
Et sur la partie sales, comment vous faites l'acquisition aujourd'hui? C'est vraiment les entreprises qui viennent à vous? C'est vous qui faisiez l'acquisition
un peu
de la demande?
Un peu des deux. Donc, en fait, quand tu fais de l'open source, pour donner une idée du funnel, c'est que, imaginons que tu as 100 devs qui se servent de ta plateforme open source. Tu en as en général une dizaine qui sont en train de l'évaluer pour un use case commercial et tu en as environ 10% de ça qui va devenir un client. Donc, en fait, le taux de conversion entre le nombre de devs que tu as sur GitHub et le nombre de clients payants à la fin, c'est à peu près 1%. Donc ça, c'est ton inbound. Ensuite, ton outbound, c'est comme n'importe quoi. Tu vois, tu identifies une boîte, un projet, tu dis, tiens, je pense qu'on peut faire un use case. Tu développes un petit case study, tu vas leur en parler, tu leur pitch, tu discutes, tu essaies de voir si c'est un truc qui est important pour eux ou pas. Tu as un peu des deux. Donc le outbound aujourd'hui, on le fait un peu ad hoc. On connaît quand même pas mal de monde, tu vois. Donc, donc on a quand même pas mal d'intros. Et le inbound, ça pick up pas mal.
Ok. Ouais, ce que j'allais dire pour l'outbound, bon, si t'as du réseau, effectivement, c'est plus simple, mais quand c'est vraiment à froid,
écoute,
c'est dur de pitcher une technologie de rupture.
Mais nous, encore une fois, on vend pas du SaaS.
Ouais,
donc on est pas en train d'aller pitcher. Enfin, tu vois, il y a personne de chez nous qui va t'envoyer un message sur LinkedIn en te disant, est-ce que je peux t'aider, tu vois, à grossir ton audience, quoi. Ça, c'est très, très, très. Enfin, si tu veux, nous, on est une boîte à terme, on a 1000 clients. Tu vois ce que je veux dire? On en a pas 100 millions. Donc, c'est pas le même nombre d'acteurs. Tu vois, nous, on est typiquement. Quand tu regardes ton chart où tu as price versus nombre de clients, nous, on est plutôt dans où tu n'as pas énormément de clients, mais où la techno a énormément de valeur, donc tu as quand même des vrais revenus avec, tu vois. Donc, on n'est pas en train de vendre un truc à 10 balles par mois à 1 milliard de personnes. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de vendre des contrats de plusieurs millions de dollars à 1000 personnes.
Ouais.
C'est vraiment ça le but, quoi.
Ok. Et tu disais que vous avez vraiment une équipe de Top Gun, notamment sur la partie dev. C'est quoi un peu vos process pour le recrutement, pour vraiment recruter des top profils?
C'est le même qu'on a depuis ma boîte d'avant. On a un pipeline de candidats. Donc, il y a des gens qu'on va voir et des gens qui apply. Ils envoient un résumé, un CV, quelques questions, le truc classique. On filtre beaucoup déjà sur ça. Ceux qui qu'on trouve intéressant, on leur envoie un challenge, donc un truc à faire chez eux. Donc ils nous renvoient. Basé sur ça, on fait une ou deux interviews où on discute justement de la solution qu'ils ont proposée. On essaie de rentrer en détail pour comprendre comment ils réfléchissent. Donc plutôt que de faire du whiteboarding, tu vois, on va plutôt vraiment dans le détail d'un vrai exercice. Et si ça se passe bien, on bosse ensemble pendant 2 jours sur un side project. Donc il y a très 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 peu de gens qui arrivent en fait à cette étape finale, comme tu peux imaginer. Donc l'étape finale, c'est plus une validation qu'on a vraiment envie de bosser ensemble plutôt qu'une étape du recrutement. Tu vois, donc la majeure partie des gens qui arrivent à la dernière étape, ils sont recrutés. Donc c'est très involved pour nous et pour eux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu vas passer quelques années de ta vie dans une boîte, tu as quand même envie d'être sûr que ça va bien se passer. Et moi, je trouve que passer 1 ou 2 jours ensemble à rencontrer l'équipe, à bosser sur un projet ensemble, un truc comme ça, finalement, c'est pas un si gros investissement pour être sûr que tu vas pas te barrer au bout de 3 mois parce que t'aimes pas l'ambiance de là où t'es. Tu vois, on a le taux de churn d'employés chez Zama est un des plus bas dans la tech en Europe. Les gens sont contents parce que le process de recrutement maximise l'échange d'informations avant que les gens arrivent.
Ah, mais moi, je trouve que c'est une excellente idée, le fait de... D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit pas autant répandu, le fait de faire juste un essai, en fait. Ça me paraît logique. Peu de boîtes le font.
Parce que tu sais, les boîtes, elles partent du principe que tu as la période d'essai pour ça. Moi, je trouve que non. Moi, je trouve que la période d'essai, ça devrait être une formalité, ça devrait pas être une période d'essai. Tu vois, c'est un fail si on garde pas quelqu'un à la fin de sa période d'essai.
Complètement. Complètement. Et ouais, je suis vraiment d'accord là-dessus. Je te propose de conclure, Rand. Déjà pour parler de l'actualité, est-ce que tu as des actualités que tu souhaites partager?
Par rapport à Zama, j'imagine.
Ouais.
Oui. Écoute, par rapport à Zama, l'actualité qu'on veut partager, c'est que on n'est pas loin d'avoir un breakthrough qui nous permettra d'aller encore plus vite. Et donc, je pense que d'ici la fin 2024, on arrivera au même niveau de performance qu'Ethereum, mais avec des transactions en FHE. Et ça, c'est un
Ok.
vrai game changer.
Carrément. Bah écoute, on va suivre ça de près. Et ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet blockchain?
De venir nous voir et de faire un projet sur une FHEM.
Ouais, super conseil. D'ailleurs, tu vois, t'es un développeur, tu veux lancer un proof of concept. Est-ce que c'est possible sur Zama? Parce que tu disais que votre ambition, tu vois, c'est de
Absolument.
surtout
Alors,
d'avoir.
tout est open source, déjà.
Ouais.
Donc, bien sûr. Et en plus de ça, on a un testnet qui permet aux gens, justement, de facilement déployer des contrats et de jouer avec. Donc, quand bien même Zama n'a pas pour vocation de lancer une blockchain, on a quand même un test net pour justement que les développeurs se familiarisent avec la techno.
Ok. Et d'ailleurs, à terme, je me demandais, est-ce que vous allez aller sur des blockchains non EVM ou vous êtes vraiment focus sur de l'EVM pour l'instant?
Ah non, il n'y a pas de. On est. Enfin, le VM, si tu veux, c'est juste. C'est comme si je te dis, j'ai fait une application iOS versus Android en premier.
Ouais.
À terme, on ira là où les développeurs sont finalement.
Bien sûr. Toi,
Tu
tu
vois,
penses que par
donc.
exemple, Ethereum a déjà plié le game ou c'est possible
Je
qu'il y a
pense que
plusieurs
le
blockchains
VM, ça va
qui.
être dur de les détrôner. Surtout maintenant que tu as beaucoup de gens qui font des efforts pour scaler les EVM. Mais après, tu vois, tu as quand même un gros écosystème sur Solana, donc ça peut avoir du sens. Tu commences à, enfin, dans l'Enterprise Blockchain, les gens, ils utilisent Bezu, Hyperledger. Donc, alors, tu peux mettre une EVM dessus si tu veux. Mais enfin, tu vois, tu as différents environnements où tu dois t'adapter. Mais je pense que plutôt qu'une question d'EVM ou pas EVM, ça va être une question d'écosystème. Tu vois, c'est est-ce qu'on veut, par exemple, permettre aux gens de faire des subnets Avalanche en FHE? Est-ce qu'on veut permettre aux gens de faire, tu vois, des polygons sidechain en FHE? Est-ce qu'on veut permettre aux, tu vois, aux gens de faire des parachains Polkadot? Donc, on réfléchit plus en termes d'écosystème qu'en termes de VM ou pas VM.
Et d'ailleurs, c'est intéressant. C'est quoi le. J'imagine qu'il y a des développeurs qui doivent vous contacter pour vous demander oui, ce serait cool d'avoir Zama compatible avec Tech Blockchain. C'est quoi un peu le point de rupture pour dire ok, on se lancerait sur telle blockchain
Alors, nous, aujourd'hui, on fait vraiment un max de boulot pour permettre aux gens de facilement forquer notre implémentation et la faire marcher sur leur plateforme à eux.
D'accord.
Donc, si Avalanche voulait le faire, il pourrait le faire. En vrai, ça serait pas si compliqué que ça. Après, la question, c'est est-ce que nous, on le fait et est-ce que nous, on le maintient? Bah, c'est une question de marché. S'il y a des clients, on le fera.
Ok. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, qu'une fondation, donc une blockchain, hein, et que la fondation de la blockchain sponsorise le contrat pour que vous fassiez l'intégration et la
Ah oui,
maintenance?
bah, en pratique, c'est ce qui se passe, hein.
Ouais.
Oui, en pratique, c'est ce qui se passe, tu vois. Que ce soit pour lancer une sidechain sur leur stack à eux ou que ce soit pour juste permettre aux développeurs, en pratique, s'il y a de l'intégration custom à faire, il y a forcément un grant quelque part pour aider à faire ça, bien sûr.
Ok. Ça marche. Rand, merci beaucoup. C'était
Avec
passionnant hein,
plaisir.
et hâte de se voir. Voilà, si, enfin, j'en doute pas hein, que ça va être le futur de la blockchain et où, enfin, quels seront vos prochains clients et vraiment les use cases qu'on va voir à court terme. Ouais.
Merci.